DW. Le journal. Carole Assignon.
Il est 17h en temps universel, 19h en Allemagne. Nous sommes le jeudi 6 mai 2021. Au sommaire de ce journal, 25 ans de prison pour Dominique Ongwen. La Cour pénale internationale a prononcé son jugement contre le commandant de la LRA. Il a été condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au Tchad, le mouvement Wakitama appelle de nouveau à des marches pacifiques samedi prochain. Mais nous le verrons, le mouvement a du mal à parler d'une même voix. Et puis nous ferons un point sur la décision des États-Unis de soutenir la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, une décision qui suscite beaucoup de réactions. Voilà pour le programme, mais dans l'immédiat, on retrouve Sandrine Blanchard pour le Flash Info.
Bonsoir. Au moins 25 personnes ont été tuées dans une favela de Rio de Janeiro, au Brésil, dans un échange de tirs entre la police et des narcotrafiquants. Deux passagers ont également été blessés dans une fusillade qui a éclaté dans un métro d'une banlieue nord de la ville. L'Africa CDC salue la position américaine pour une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent africain espère ainsi une meilleure répartition des doses entre les pays. De son côté, l'Union européenne se dit prête à discuter de la proposition américaine. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a toutefois précisé que l'UE était pour l'heure, je cite, le principal exportateur de vaccins du monde, et elle appelle les autres pays producteurs à lever leurs restrictions pour exporter aussi leurs doses. Mais le gouvernement d'Angela Merkel, lui, est réservé. L'Allemagne voudrait que les brevets continuent d'être protégés pour soutenir l'innovation. Et sans surprise, le PDG de l'entreprise Pfizer se dit, lui, pas du tout en faveur d'une levée des brevets. Les députés du Bundestag donnent le feu vert à un assouplissement des restrictions pour les personnes vaccinées contre la Covid-19 ou qui en ont guéri. Le Bundesrat, qui est la chambre haute du Parlement allemand, doit encore se prononcer sur ce projet qui est contesté par une partie de l'opposition. Par ailleurs, le ministère de la Santé annonce ce soir l'ouverture de la vaccination à l'AstraZeneca aux adultes de tous âges et tous les habitants de plus de 12 ans devraient pouvoir être vaccinés à partir du mois d'août en Allemagne. Des tensions entre le Royaume-Uni et la France. Paris critique les manœuvres britanniques dans la Manche alors que deux bâtiments militaires ont été déployés pour faire face à une flottille de pêcheurs français en colère. En riposte, la marine française a elle aussi envoyé deux navires sur place au large de l'île anglo-normande de Jersey. Toujours en Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui qu'avaient lieu les élections régionales et c'est surtout le scrutin écossais qui retient l'attention car les électeurs pourraient voter en faveur des indépendantistes, donnés favoris dans les sondages, ce qui déboucherait sur un nouveau référendum d'autodétermination. Ces élections sont les premières depuis le Brexit et depuis le début de la pandémie de coronavirus. En Colombie, deuxième semaine de manifestation, le président Duque et son gouvernement de droite dure dénoncent le vandalisme violent des manifestants. Le chef de l'État propose toutefois d'ouvrir un dialogue dans les prochains jours. Hier, l'ONU s'était inquiétée de la violence de la répression en Colombie. Elle a déjà fait plusieurs dizaines de morts. Les Nations Unies appellent au calme. 25 ans de prison, c'est la sentence prononcée par la Cour pénale internationale contre Dominique Ongwen, cet ancien enfant soldat ougandais, devenu par la suite commandant de l'armée de résistance du Seigneur, avait déjà été reconnu coupable de 61 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le communiqué des ministres des Affaires étrangères du G7 ne passe pas en Chine. Pékin condamne fermement la déclaration des ministres qui ont critiqué sa politique en matière de droits de l'homme, ainsi que la répression à Hong Kong. La Chine parle, elle, d'ingérence et elle récuse des accusations qu'elle estime infondées. Toujours à propos de Hong Kong, le militant des droits humains Joshua Wong, déjà incarcéré, a écopé d'une peine de 10 mois de prison supplémentaire. La justice lui reproche d'avoir participé à un rassemblement non autorisé qui commémorait la répression de 1989 sur la place Tiananmen. Des grèves en Grèce, la plupart des services publics du pays étaient à l'arrêt pour la deuxième fois en une semaine. Les manifestants contestent une réforme du travail. Elle est présentée comme un assouplissement de la réglementation sur le temps de travail. Le prototype de fusée Starship du milliardaire Elon Musk a finalement réussi à décoller. Le projet prévoit des vols habités dès 2023 autour de la Lune pour des touristes fortunés. Et puisqu'on parle de tourisme, une petite localité japonaise fait polémique. La commune de Noto a dépensé plus de 200 000 euros pour ériger une statue de Calmar, géant, et oui, la municipalité argue de la nécessité de relancer le tourisme, sauf que ces fonds ont été prélevés sur les aides de l'État dans la crise liée au coronavirus.
Les nouvelles du monde avec Sandrine Blanchard. Merci Sandrine, il est 17h05 en temps universel, la suite du journal.
DW.
Et vous l'avez entendu dans le flash, Dominique Ongwen, l'un des principaux commandants de l'armée de résistance du Seigneur, est fixé sur son sort, jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale à La Haye. Il écope de 25 ans de prison après avoir déjà été jugé coupable en février dernier. La LRA a terrorisé pendant 30 ans de larges zones d'Afrique centrale avec des enlèvements d'enfants, des mutilations de civils à grande échelle et l'asservissement de femmes. Le point avec Jean Michel Boss.
À la lumière de la gravité des crimes que vous avez commis, la Chambre vous condamne à une période totale d'emprisonnement de 25 ans, a déclaré ce jeudi matin le juge allemand Bertram Schmidt en s'adressant à Dominique Ongwen. Celui-ci avait été reconnu coupable en février de dizaines de chefs d'accusation, dont des meurtres, viols, cas d'esclavage sexuel, pillages et plusieurs attaques contre des civils en Ouganda. Après des années de cavale, il s'était rendu lui-même à la justice en 2015. C'est la première fois qu'un commandant de cette rébellion est envoyé en prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Comme Dominique Ongwen a déjà passé 6 ans en détention provisoire, eh bien la sentence sera réduite à 19 ans de prison. Cette sentence était très attendue car la défense de l'accusé avait mis en avant la propre histoire de l'ancien chef rebelle âgé de 46 ans. Durant son enfance, il avait été lui-même victime de l'armée de résistance du Seigneur avant de devenir une des figures de cette rébellion. Selon le juge principal, malgré le fait d'avoir été recruté de force comme enfant soldat, Dominique Ongwen est pleinement responsable des faits incriminés et a agi de manière volontaire tout en ne faisant rien pour rompre avec la rébellion. Cependant, les juges ont pris en compte son expérience personnelle et la violence subie durant son enfance pour rendre le jugement moins dur qu'une détention à perpétuité. Le procès ouvert en décembre 2016 aura été l'un des plus complexes tenus jusqu'ici devant la justice internationale. La défense de Dominique Ongwen, qui a déjà fait des recours contre la condamnation en février, peut aussi attaquer le jugement prononcé ce jeudi.
Jean-Michel Boss. J'ajoute que Joseph Kony, le fondateur de l'armée de résistance du Seigneur, reste introuvable, mais plusieurs autres commandants ont péri ou se sont rendus après avoir été pourchassés pendant des années par des troupes africaines et les forces spéciales américaines. En République démocratique du Congo à présent, l'état de siège dans les deux provinces de l'est du pays, le Nord Kivu et l'Ituri, est entré en vigueur aujourd'hui. Des officiers généraux ont été nommés à la tête des deux provinces respectives, mais la population semble s'inquiéter de cette présence militaire renforcée. Alors pour rassurer les habitants, le porte-parole de l'armée dans les opérations contre les groupes armés Sokola 1, le lieutenant Anthony Mualushaï, a appelé la population au calme. Il a dit au micro de notre correspondant dans la région, John Kanyonyo, on l'écoute.
L'état de siège sera bénéfique pour la population. Nous sommes plus que déterminés à traquer ces malfrats et nous sommes sûrs qu'à la fin de l'état de siège que le commandant suprême a décrété pour notre province va apporter des bons fruits et la population doit respirer. Nous invitons notre population d'abord à nous faire confiance. Aimez votre armée. L'armée veille, l'armée travaille. L'armée est comme le poisson et la population comme l'eau. Le poisson ne peut pas vivre. Les poissons ne peuvent pas respirer en dehors de l'eau. La population doit se sentir à l'aise avec l'armée. L'état de siège ne veut pas dire qu'il y a rupture de mariage entre population et son armée. D'ailleurs, c'est un bon moment où nous devons nous montrer encore soudés pour qu'après l'administration militaire, que le monde voie réellement que l'armée a travaillé.
Voilà, c'était le lieutenant Anthony Mualushaï, porte-parole de l'armée congolaise. On reste en RDC. Le gouverneur de la province du Tanganyika, le jeune frère de l'ex-président Joseph Kabila, a été destitué aujourd'hui en son absence. Dans leur motion, les 13 députés provinciaux signataires, membres de l'Union sacrée de la nation du chef de l'État Félix Tshisekedi, reprochent à Zoé Kabila, je cite, la mauvaise gestion de la province. Le manque de respect envers l'institution, l'Assemblée provinciale, ainsi qu'envers les autorités nationales. Une destitution qui a suscité des réactions chez nos abonnés Rémi Mallet.
C'est le vent du changement. Fini avec le régime d'impunité des intouchables, se réjouit Jean-Baptiste à Kinshasa. En RDC encore, Théo estime que Zoé Kabila n'a pas compris jusque-là qu'il faut travailler pour l'intérêt du peuple en collaboration avec le chef de l'État. Sa destitution, écrit-il, est un signal fort des députés provinciaux qui veulent travailler dans la même vision que le président Tshisekedi. Quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage, martèle pour sa part Muratala au Niger, qui estime que cette destitution est le signe de la fin de l'amitié entre l'ancien président Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Fofana de Libreville abonde enfin dans le même sens et dénonce une chasse aux sorcières contre la famille Kabila.
Les réactions sur les réseaux sociaux avec Rémi Mallet. Rémi Mallet qu'on retrouvera tout à l'heure.
Vous écoutez la DW.
Sur la DW, direction à présent le Tchad où le mouvement Wakitama appelle de nouveau à des marches pacifiques dans tout le pays samedi prochain. Des manifestations qui seront organisées cette fois sans la présence du principal parti d'opposition, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau de l'opposant Saleh Kebzabo. Alors l'UNDR a en effet intégré le gouvernement de transition et appelle ses militants à ne pas répondre à l'appel à manifester de Wakitama. Mouvement composé de partis d'opposition et d'organisations de la société civile. On fait le point avec Blaise Dariston, notre correspondant à N'Djamena, la capitale tchadienne.
La coordination du mouvement Wakitama reproche au Conseil militaire de transition d'ignorer les solutions alternatives. Ni le retour à l'ordre constitutionnel, ni le schéma malien proposé par certains n'ont ainsi convaincu la junte militaire, déplore l'avocat Max Loalngar, par ailleurs coordonnateur du mouvement citoyen Wakitama.
Le peuple est debout. La coordination des actions citoyennes Wakitama reste mobilisée pour le bien-être de toutes nos communautés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. À ce titre, nous lançons un appel pressant à toutes les organisations de la société qui ne se sont pas encore engagées dans la lutte à cette date de se joindre sans délai à la mobilisation du peuple pour des actions citoyennes futures. La toute prochaine marche pacifique est justement prévue pour le samedi 8 mai 2021 sur toute l'étendue du territoire. Nous devons ensemble tracer les sillons pour façonner le modèle tchadien que nous voulons inclusif, généreux et dynamique. Peuple tchadien, ta liberté naîtra de ton courage.
Une position que ne partage pas l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR de l'opposant Saleh Kebzabo, qui vient d'intégrer le gouvernement de transition militaire à travers deux de ses militants. Célestin Topona Mogunga est le premier vice-président de l'UNDR.
Pour cette fois-ci, nous ne demandons pas à nos militants de sortir marcher parce que nous pensons qu'il faut saisir l'opportunité du début des négociations possibles avec les nouvelles autorités. Nous avons, dans le cadre de notre recherche de la vérité politique, décidé qu'après la chute du régime du MPS, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir et il faudrait que nous puissions jouer notre rôle en tant que parti politique qui s'estime majeur dans la vie de ce pays. Voilà notre option. C'est une question d'approche.
Une attitude qui pourrait fragiliser la mobilisation pour les marches pacifiques du 8 mai prochain, initiée par le mouvement Wakitama, dont l'UNDR était membre jusqu'à son entrée dans le gouvernement de transition militaire. Blaise Darius Tonandjamena pour la Deutsche Welle.
Et toujours au sujet du Tchad, selon le ministre de la Défense, les rebelles qui mènent depuis la mi-avril une offensive contre le pays sont débandades. Il réaffirme par ailleurs que les autorités ne vont pas dialoguer avec, je cite, les terroristes. Des combats ont opposé l'armée au groupe rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, dans la région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger, à environ 300 km au nord de la capitale N'Djamena. Le procès de Paul Rusesabagina, le héros du film Hôtel Rwanda, a repris aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. Depuis le 17 février, ce dernier est jugé pour 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Paul Rusesabagina refuse de comparaître à son propre procès qu'il juge inéquitable. Alors sa famille reste préoccupée et craint qu'il ne soit éliminé par le régime de Kigali. Les explications avec Wendy Bashi.
Paul Rusesabagina n'a pas donné d'ordre aux combattants rebelles qui sont accusés d'attaques sur des civils en 2018. C'est du moins ce qu'a récemment déclaré Herman Nsengimana, un ancien combattant rebelle, membre du Front de Libération Nationale, qui serait le bras armé du mouvement rwandais pour le changement démocratique, fondé en 2017 par Paul Rusesabagina. Une thèse qui vient conforter les dires de la famille du héros d'Hôtel Rwanda, qui ne cesse de clamer son innocence, comme le rappelle sa fille Karine Kanimba.
Nous avons été très surpris la semaine dernière par la bravoure de l'un des accusés, Herman Nsengimana, qui a déclaré au juge que Paul Rusesabagina n'avait joué aucun rôle et n'était pas impliqué dans les activités terroristes présumées. Malheureusement, son témoignage n'a pas été correctement consigné.
Un procès que les proches et la famille qualifient d'injuste. À Kigali, l'avocat Gatete Nyirigabo considère pourtant que Paul Rusesabagina est traité correctement.
Si on voulait l'éliminer, ça, on ne l'aurait pas présenté devant les médias. Quand il apparaît au tribunal, c'est visible, on le voit. Donc en fait, toute la situation de Rusesabagina est tellement transparente, que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce qui serait important, c'est que les gens viennent suivre le procès.
Un procès qui suscite néanmoins de nombreuses réactions. Les États-Unis qui ont décerné à Paul Rusesabagina la médaille présidentielle de la liberté en 2005 ont demandé dès l'ouverture du procès au mois de février que ce dernier soit équitable. Et la Belgique a fait part de son inquiétude par rapport au sort qui lui est réservé par la justice rwandaise. Pour Karine Kanimba, le président rwandais Paul Kagame a pris ombrage du succès de son père.
La seule et unique raison pour laquelle Paul Kagame en veut à mon père, c'est parce qu'il est jaloux de lui depuis que Hôtel Rwanda est sorti.
Le procès des 21 suspects terroristes faisant partie du MRCD-FLN a donc repris ce matin à 8h30 à Kigali. Ni Paul Rusesabagina ni ses avocats n'ont participé aux audiences depuis le 25 mars car ils remettent en cause l'objectivité du tribunal.
Wendy Bachim. En Côte d'Ivoire à présent, les tractations au sujet du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo se poursuivent. Mais la date de son retour ne sera connue que quand tout sera prêt pour l'accueillir, notamment en termes de sécurité. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan Bertin. On reste en Côte d'Ivoire où des tensions locales se sont traduites par l'incendie de 3 villages de la région de Jacquesville, une localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Aujourd'hui, les habitants de ces villages dorment dehors et les autorités locales tentent de rapprocher les communautés afin de les aider à revivre ensemble. Julien Day, notre correspondant en Côte d'Ivoire, s'y est rendu.
C'était le 30 avril dernier. 3 jeunes de 2 villages voisins se sont lancés dans un concours de consommation d'une boisson alcoolisée locale connue sous le nom de Koutoukou. Après avoir bu 7 verres de cette liqueur locale, un des jeunes tombe et meurt. La thèse d'un empoisonnement est brandie. Les amis du défunt décident alors de le venger. Le lendemain, aux environs d'1h30 du matin, les camarades du défunt traversent la lagune, armés de fusils de chasse, de gourdins et de lances, atterrissent sur l'autre rive et incendient en un temps record 3 villages de pêcheurs. C'est dans l'un de ces 3 villages incendiés que nous rencontrons Justine Rossou, 11 ans, élève en classe de CM1. Elle et sa famille ont tout perdu.
Ils ont brûlé ma maison, et ils ont brûlé mon sac, et ils ont brûlé mes cahiers et mes habits, et tout perdu. Aujourd'hui, je n'ai plus d'habits.
Richard Akouladier, le chef du village de Tiamia, regarde impuissant les décombres laissés par l'incendie et ses populations qui ne comptent que sur lui. Le chef local a le regard tourné vers les autorités préfectorales.
On a amené à faire là à notre supérieur, qui est Madame le préfet, qui est pris à faire là en charge. Donc on l'attend.
Les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire ont en partage la mer et la lagune. Pour éviter d'autres heurts, l'ONG locale J'aime Jacquesville est sur le terrain pour tenter de réconcilier les villages en conflit. Gabriel Pita, chef des opérations de l'ONG J'aime Jacquesville, explique que les populations de ces 3 villages sont sans abri et qu'il y a urgence.
Avant l'incendie, ces populations vivaient en parfaite harmonie. Et aujourd'hui, s'il y a méfiance, cela ne donne pas une bonne image. Donc nous sommes en train de chercher à rapprocher ces 2 communautés-là pour que la manière de vivre comme auparavant puisse revenir, quoi.
Moïse Lakpa Esso, chef de terre du village d'Ada et tuteur des habitants sinistrés, tente de trouver des solutions pour se protéger. Il lance un appel à l'aide.
Simplement, nous sommes en train de tendre la main à tous ceux qui peuvent nous venir à l'aide pour que nos frères sinistrés puissent avoir des maisons.
Le bilan de ces attaques de village est de 180 personnes sinistrées et 45 élèves, comme Justine Rossou, qui se trouve dans l'impossibilité d'aller aujourd'hui à l'école. Julien Adaillé de retour de Jacquesville pour la Deutsche Welle.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, eh bien écrivez-nous simplement sur Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Vous pouvez également nous contacter via WhatsApp. WhatsApp qui est le leader en nombre d'utilisateurs actifs mensuels et compte plus de 2 milliards d'usagers dans le monde. C'est ce que révèlent les données d'un rapport sur le sujet publié en 2020 par We Are Social et Hootsuite. Mais à partir du 15 mai, vous devrez accepter les nouvelles conditions afin de pouvoir continuer d'utiliser l'application. Alors à quel changement devrait-on s'attendre? Élément de réponse avec Rémi Mallet.
Selon Facebook, propriétaire de WhatsApp, les modifications apportées aux conditions d'utilisation et à la politique de confidentialité devraient permettre de faire de sa messagerie une application orientée vers les entreprises. L'application souhaite notamment permettre aux annonceurs de vendre directement leurs produits sur WhatsApp, comme c'est déjà le cas en Inde, son plus grand marché avec quelque 400 millions d'utilisateurs. WhatsApp avait pourtant bâti sa réputation sur la protection des données. Lors du rachat de l'entreprise par Facebook en 2014, le service avait promis qu'il ne partagerait pas d'informations de ses utilisateurs avec la maison mère. WhatsApp a tenté de rassurer sa communauté, expliquant que sa nouvelle politique n'affecte en aucune façon la confidentialité des messages échangés avec vos amis et votre famille. En revanche, des informations comme votre numéro de téléphone, votre nom et votre adresse IP seront, elles, bel et bien partagées. Ces données permettront de proposer de la publicité ciblée et de rentabiliser la messagerie gratuite. La décision de WhatsApp a poussé plusieurs utilisateurs à se tourner vers d'autres applications de messagerie. Par exemple, Signal, qui ne collecte que le numéro de téléphone de ses utilisateurs et aucune donnée sur les usagers n'est stockée sur ses serveurs. Telegram, autre application de messagerie, est aussi vue comme une alternative à WhatsApp. Olvid, Scred ou encore Viber constituent d'autres alternatives à WhatsApp. Au Cameroun, l'application de messagerie Onjos, lancée il y a un an, rêve également de détrôner WhatsApp et apparaît comme une alternative possible pour les utilisateurs des applications de messagerie instantanée.
Merci Rémi Mallet. Direction à présent la Casamance. Le commerce en ligne est devenu une activité lucrative pour les jeunes Casamançais qui, faute d'emploi, dégagent des revenus avec ce genre d'activité. Dénommé le networking, beaucoup en ont fait leur activité professionnelle, principale ou secondaire selon les cas. La majorité de ces jeunes travaillent pour promouvoir en ligne les produits de sociétés qui préfèrent passer par eux plutôt que par le canal traditionnel des publicités télévisées. Notre correspondant Mamadou Alpha Diallo est allé à la rencontre de ces networkers.
Le networking commence à devenir une activité favorite de bon nombre de jeunes en Casamance. De petits clubs de networkers ne cessent de se créer dans les quartiers populaires de la ville de Ziguinchor. Elas Diata fait partie d'un de ces clubs.
Voilà, je fais le networking parce que j'ai trouvé que ça peut me faire tout simplement un additionnel, n'est-ce pas, dans ce que je gagne. Et ça ne gâche rien dans le travail que je suis en train de faire. Quoi. C'est pour cette raison que je me suis investi.
Ousmane Diata nous a expliqué un exemple de tâches à accomplir en ligne.
Il y a plusieurs plateformes qui proposent un certain nombre de tâches, c'est-à-dire des tâches de faire de la publicité en ligne et se faire payer pour les tâches qu'on accomplit. Par exemple, si vous parvenez à publier une image et un ensemble de liens sur Instagram ou Facebook pour chaque réseau social, vous gagnez $10 par image publiée. On a créé ce club des networkers de Ziguinchor parce que nous, on est conscients que présentement, au 21e siècle, le business numérique est très en vogue et est incontournable. C'est pourquoi aussi, en l'instar de ce qui se passe à l'échelle mondiale, on n'a pas voulu que la jeunesse de Ziguinchor aussi soit en reste. La jeunesse de la Casamance est également.
Il souligne qu'avec ces opportunités qu'offre aujourd'hui Internet, les jeunes ne doivent plus se plaindre.
Actuellement, on est au temps du self-made man. Tellement d'opportunités à travers les réseaux sociaux qui nous permettent de gagner de l'argent. Donc, à mon humble avis, c'est même ridicule d'entendre un jeune en ce 21e siècle qui a un téléphone, un smartphone, réclamer de l'emploi de la part du gouvernement.
Même des retraités commencent à envahir ces clubs pour d'abord se former et ensuite se lancer dans ces nouveaux business qui leur permettent de gagner parfois plus de revenus que quand ils étaient dans la vie active. Mamadou Alpha Diallo, à Ziguinchor pour la Destuvelle.
Il est 17h et bientôt 24 minutes en temps universel. Et on en vient à présent à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Le sujet est sensible compte tenu des intérêts en jeu. Mais les États-Unis ont annoncé qu'ils y étaient favorables. Si cette décision se heurte à la réticence de certains grands laboratoires, elle est tout de même saluée un peu partout dans le monde. Et si elle est réservée, l'Allemagne ne rejette pas totalement l'idée. Hugo Flotatalon.
C'est une discussion à laquelle nous sommes ouverts. Nous sommes actuellement dans une situation exceptionnelle dans laquelle nous devons avoir suffisamment de vaccins pour le monde entier.
C'est ainsi qu'a réagi lors d'une conférence de presse le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, à l'annonce de Washington de soutenir la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Pour les autorités américaines, les circonstances extraordinaires de la pandémie appellent à des mesures extraordinaires. Même si l'administration croit fermement en la protection de la propriété intellectuelle, elle entend œuvrer pour mettre fin à cette pandémie. Accusé de blocage dans la fourniture de matières premières alors qu'une pénurie menace, le gouvernement américain s'engage désormais à œuvrer à ce qu'il y ait plus de matières premières nécessaires à la production de vaccins. C'est ce qu'assure par ailleurs Catherine Tai, la représentante au commerce au sein du cabinet Biden. De longs débats juridico-économiques s'annoncent, en particulier à l'Organisation mondiale du commerce sur la levée des brevets sur les vaccins. En attendant, plusieurs pays, notamment africains, espèrent des livraisons du précieux sérum. John Nkengasong, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies, qui dépend de l'Union africaine, estime donc que la position américaine est une expression remarquable du leadership et un développement très important. Ce sont ses mots. Pour lui, il s'agit de la bonne décision au bon moment. Wolfgang Preiser, virologue à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud, est plus réservé.
J'espère vraiment que cela aura un impact, mais pas à court terme. Mais je pense qu'à moyen terme, disons, son application fera une grande différence.
Et selon le chercheur, il faut la technologie, mais aussi les matières premières pour pouvoir produire les vaccins. Or, même les grands laboratoires peinent pour le moment à se les procurer. Le docteur Jérôme Kin, directeur général de l'Institut international des vaccins à Séoul, en Corée du Sud, estime de son côté que la vraie question est de savoir si, avec la levée des brevets, on sera en mesure d'obtenir des vaccins de haute qualité, car il faut un certain savoir-faire pour produire des sérums en question. Il rappelle par ailleurs que les grands laboratoires ne travaillent pas dans un but non lucratif.
C'était les précisions de Hugo Flotet-Talon. On passe à présent au sport.
DW. Le sport. Sophie Serbini.
Ce soir, les demi-finales retour de Ligue Europa mettront aux prises Manchester United, AS Roma et Arsenal à Villarreal. Présentation des deux rencontres par Sophie Serbini.
Les deux clubs anglais en course ce soir vont-ils imiter leurs compatriotes de la Ligue des Champions et donner à la compétition une finale 100% anglaise ? Pour Manchester United, vainqueur 6 buts à 2 lors du match aller, une qualification face à l'AS Roma semble quasiment acquise. Il faudrait un miracle pour que les Romains retournent la situation. Les Mancuniens vont devoir tout de même être vigilants, puisque la notion de miracle n'est pas étrangère à l'équipe italienne. En 2018, les Romains avaient notamment réussi à éliminer le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, après avoir pourtant perdu le match aller 4 buts à 1, un fait d'armes que Ole Gunnar Solskjaer a tenu à rappeler en conférence de presse.
Nous devons nous qualifier pour la finale. Tout le monde dit que c'est fait, mais ce n'est pas le cas. J'ai vu de sacrés retournements de situation dans ma carrière, notamment avec la Roma. Il n'y a pas si longtemps, ils ont battu Barcelone en ayant perdu le match aller 4 buts à 1.
Pour Arsenal, la donne est un petit peu plus compliquée, puisque les Gunners ont perdu leur match aller 2 buts à 1. Mais en inscrivant un but à l'extérieur, les hommes de Mikel Arteta ont pris un certain avantage sur l'équipe espagnole, entraînée par leur ancien coach Unai Emery. L'homme qui sera chargé de finir le travail pour Arsenal sera très certainement Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais pas vraiment au mieux cette saison, en raison de blessures mais aussi de problèmes extra-sportifs liés à son contrat, va tout faire pour tenter de redorer son blason.
J'ai eu des saisons difficiles au début de ma carrière et ce n'était pas facile, mais c'est vrai que cette saison, parmi les dernières que j'ai disputées, a été la plus dure. Mais c'est la vie et il faut faire avec en se focalisant sur le travail. Je sais que j'ai eu une année difficile car j'ai eu des problèmes sur et en dehors du terrain, mais je suis en confiance pour cette fin de saison. J'ai faim, je me sens à 100% et je veux finir la saison correctement pour le club.
Les deux rencontres auront lieu ce soir dès 19h en temps universel.
L'actualité sportive avec Sophie Serbini. Avant de passer au magazine de cette soirée, on retrouve pour une dernière fois Rémi Mallet pour parler d'insectes. Et oui, des insectes bientôt dans les assiettes des Européens. Cette semaine, l'Union européenne a donné son feu vert pour consommer par exemple des vers de farine. La décision européenne a provoqué des réactions parmi nos abonnés en Afrique qui nous ont expliqué qu'eux aussi consommaient des insectes. Rémi Mallet.
À Kamina, en RDC, on consomme des chenilles, des termites ailées et des fourmis rouges, nous confie Fiston. Et c'est la fête dans la bouche, se réjouit-il. De son côté, Gabriel du Togo indique que dans son pays, les grillons, les éphémères ou encore les vers de palmier font aussi partie de l'alimentation et même que les goûts de ces insectes varient selon les régions. Fernand de Moudimaï, en RDC, nous explique qu'il mange des fourmis et des criquets, tout crus, mais assaisonnés de légumes et d'amarantes. Les amarantes sont des plantes herbacées dont certaines espèces sont cultivées comme plantes potagères pour leurs feuilles comestibles à la manière des épinards. Au Bénin, on mange tellement d'insectes que je ne peux pas tous les citer, indique Innocent pour conclure.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. 17h30 en temps universel, Sandrine Blanchard présente Droits et Libertés.